Laudetur Jesus Christus.
L'Allemagne confirme la mise à l'arrêt de ses centrales à charbon, et cela d'ici 2030, 8 ans avant la date prévue. RWE, le principal fournisseur d'énergie allemand, entend miser sur les énergies renouvelables. Évacuation des habitants et suspension des lignes de train au Japon, après le passage d'un missile nord-coréen dans le ciel de l'archipel, une provocation de Pyongyang, estime Tokyo. Double anniversaire aujourd'hui au Mozambique, les 30 ans de l'accord de paix qui mit fin à la guerre civile, mais également les 5 ans du début de l'insurrection djihadiste dans le Nord. Nous l'entendrons, les terroristes sont encore bien présents dans le pays et se concentrent dans les milieux ruraux. Sécheresse, Covid-19 et guerre en Ukraine, le Kenya n'échappe pas à l'inflation qui pèse sur le quotidien des Kenyans. Reportage en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. En Allemagne, la sortie du charbon est confirmée. L'énergéticien RWE a annoncé ce matin vouloir stopper ses centrales à charbon de la région du Rhin 8 ans plus tôt que prévu. Elles cesseront donc leur activité en 2030. Cette annonce confirme la volonté du gouvernement allemand de lutter contre le changement climatique. Les explications à Berlin de Delphine Nerbollier.
C'est une annonce qui tranche avec les déroulements des derniers mois. Depuis la guerre en Ukraine, l'Allemagne a relancé certaines de ses plus vieilles et plus polluantes centrales à charbon. Le but est qu'elles prennent le relais des centrales au gaz, un gaz qui arrivait jusque-là essentiellement de Russie. Ce mardi, l'énergéticien RWE, l'un des plus importants d'Allemagne et l'un des plus pollueurs aussi, a fait une annonce surprenante. Il va accélérer sa sortie du charbon. Ces 3 dernières centrales cesseront leurs activités en 2030 et non plus en 2038 comme prévu. RWE dit vouloir miser sur les énergies renouvelables. Cette décision a été prise en accord avec les autorités allemandes. À cause de la guerre en Ukraine, le gouvernement de Olaf Scholz a été contraint de miser de nouveau sur le charbon pour assurer provisoirement l'approvisionnement en électricité du pays. Mais sur le moyen terme, il veut accélérer la lutte contre le changement climatique. Avec cette sortie anticipée du charbon par RWE, Berlin devrait économiser 280 millions de tonnes de CO2. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Bientôt, un chargeur unique pour tous les smartphones dans l'Union européenne. Le Parlement à Strasbourg vient de donner son feu vert ce matin malgré les vives protestations de l'américain Apple. Une mesure pour limiter les déchets électroniques. Le consommateur pourra choisir d'acheter son téléphone avec ou sans nouveau chargeur. Téhéran dénonce l'hypocrisie du président américain. Hier, Joe Biden annonçait de nouvelles sanctions contre la République islamique d'Iran après la répression des manifestations en soutien à une jeune femme tuée par la police des mœurs pour un voile non ajusté. Il aurait mieux fallu pour Joe Biden de réfléchir un tant soit peu au bilan de son pays en matière des droits humains, a déclaré ce matin le ministre des Affaires étrangères iranien. Alors que la trêve en vigueur au Yémen depuis 6 mois a pris fin, l'ONU tente actuellement de négocier un nouveau cessez-le-feu entre le gouvernement yéménite et les opposants houthis. Le Yémen est le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Il est plongé dans une guerre depuis 2015, une des pires tragédies humanitaires au monde, selon la Croix-Rouge. Washington et Séoul ont mené des frappes de précision ce midi en mer de l'Ouest après le tir d'un missile balistique par la Corée du Nord cette nuit. Un tir qui a survolé le Japon, c'est une première depuis 2017. Tokyo a déclenché son système d'alerte. À Tokyo, Philippe Dova.
Oui, message d'alerte sur la chaîne NHK, avis d'évacuation pour les habitants, suspension des lignes de train à grande vitesse dans les régions d'Hokkaido et d'Aomori. C'est la première fois depuis 2017 que la G-Alert est déclenchée dans l'archipel nippon. Pas de quoi s'affoler cependant pour David Michaud, photographe installé depuis 15 ans au Japon.
C'est un peu un classique, hein, puisque c'est pas la première fois qu'il y en a un. Et finalement, ça n'a pas fait plus à part une alerte sur le journal télé du matin. C'est tout ce que ça a fait et les gens ont continué leur vie normalement, voilà, sans plus, quoi. C'est normal, c'est pas la première, ce sera pas la dernière, c'est des tests.
Un test, mais c'est la 5e série de tirs de Pyongyang en 10 jours. Certainement la provocation de trop, condamnée fermement par le Premier ministre Kishida et qualifié d'acte imprudent également par le président sud-coréen. Alors ce nouveau tir et les précédents sont certainement la réponse de la Corée du Nord aux exercices militaires américains, sud-coréens et japonais anti-sous-marins effectués pour la première fois depuis 5 ans il y a 3 jours et à la visite de Kamala Harris la semaine dernière dans la région. Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
En Indonésie, après le dramatique mouvement de foule dans un stade samedi soir dans lequel sont mortes au moins 131 personnes selon un nouveau bilan, des responsables de la police indonésienne sont interrogés aujourd'hui. Les policiers sont accusés d'avoir jeté des gaz lacrymogènes sur la foule dans les tribunes, bloquant le public et favorisant la bousculade meurtrière. C'est un double anniversaire aujourd'hui au Mozambique. D'abord les 30 ans du traité de paix signé à Rome en 1992 qui mettait fin à 15 ans de guerre civile. Une guerre civile dans laquelle sont mortes plus de 900 000 personnes. Mais ce début du mois d'octobre marque également les 5 ans du début de l'insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique. Ces derniers mois, une coalition de 3000 soldats africains ont bouté hors des villes les terroristes de l'État islamique. Mais ceux-ci résistent, ils se réorganisent dans les forêts et dans les zones rurales, avec toujours comme projet de mettre en place une charia et un califat islamique. C'est ce que nous explique le chercheur spécialiste du pays, Éric Morier-Génou.
L'intervention a changé l'équilibre de force. Les troupes étrangères ont repris le contrôle des villes comme Dapra et Palma qui avaient été perdues par le gouvernement. Mais le conflit continue parce que les insurgés se sont réorganisés, ils ont changé de tactique. Ils ont perdu le contrôle de ces villes qui avaient amené l'établissement d'une administration. Ils sont retournés dans les forêts en petits groupes. Retourner un mode d'opération de guérilla et qui fait que la guerre continue sous une autre forme, mais ils sont dispersés marginalement hein, dans la province un petit peu de Niassa et actuellement dans le sud de la province, dans le but, je pense, de disperser les troupes, mais ce qui n'empêche, ils ont affecté d'autres entreprises, d'autres projets miniers, et que ça pose donc toujours un problème assez sérieux.
Voilà le spécialiste du Mozambique, le chercheur Éric Morier-Génou. Une délégation de la CDAO est attendue au Burkina Faso après le nouveau coup d'État de vendredi. Le nouvel homme fort de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, promet de remettre le pouvoir à un président de la transition et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce matin, il s'est dit stupéfait par les appels qu'il a vus circuler pour perturber la mission de la délégation ouest-africaine. Au Kenya, le coût de la vie continue d'augmenter. L'inflation a atteint 9,2% en septembre, selon le Bureau des statistiques kényan, contre 8,5% au mois d'août. Elle est en hausse continue depuis 7 mois et a atteint actuellement son plus haut niveau en un peu plus de 5 ans. Une augmentation principalement liée à l'envolée des prix alimentaires, du carburant, de l'électricité et du gaz ces derniers mois. Des conséquences cumulées du Covid-19, de la sécheresse qui sévit au Kenya et de la guerre en Ukraine, une situation économique qui pèse sur le quotidien des Kenyans. Le reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Le marché de Toy à Nairobi n'est pas épargné par cette hausse des prix. Faire le plein de fruits et légumes est devenu plus compliqué pour Ali Ahmed et Mary, tous devenus remplir leur panier.
Auparavant, avec 8 euros environ, je pouvais acheter tout ce dont j'avais besoin au marché. Désormais, ce n'est plus le cas. Tout a augmenté, alors je ne prends plus de fruits, je n'achète que l'essentiel.
Le coût
de la vie a vraiment augmenté, que ce soit le carburant, le gaz ou les denrées alimentaires, comme la farine ou le sucre, pour n'en citer que quelques-uns. Mon propriétaire a même augmenté mon loyer, alors que mon salaire, lui, n'a pas changé. C'est difficile d'avoir assez d'argent pour tout payer.
William Ruto, le nouveau président kényan, avait fait de la baisse du coût de la vie une de ses promesses de campagne. À peine élu, il a pourtant réduit les subventions de l'essence, les jugeant trop coûteuses. Conséquence, les prix à la pompe ont grimpé. Devant son stand de légumes, David Kyoko s'en plaint.
Ce coût élevé du transport fait monter les prix. Mes tomates, mes choux, je les achète très cher, mais je ne peux pas augmenter le prix de vente pour compenser. Car les clients se plaignent déjà que c'est très cher. Les gens souffrent et ils n'ont pas d'argent. C'est mauvais pour le commerce.
À la sortie du marché, Roselyne Aliciota subit aussi les conséquences de l'inflation galopante avec son commerce de thé et de snacks. Elle non plus n'a pas changé les prix de ses produits, mais explique avoir dû réduire leur taille. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame une visite en Colombie. Les deux pays espèrent notamment continuer ensemble la lutte contre la drogue. Mais Washington et Bogota semblent avoir des divergences de fond. Le nouveau président colombien, Gustavo Petro, dénonce l'échec de la guerre irrationnelle contre les drogues. Il demande une stratégie qui s'attaquerait aux causes profondes de ce fléau. Le prochain retour de l'information en direct du Vatican, de l'Église et du Monde, c'est tout à l'heure à 18h. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Très bon après-midi à toutes et à tous.